Par actualité. Bonjour mes amis, Clotilde Seille au micro de Canal M en ce lundi 13 février pour vous présenter C'est par actualité avec aujourd'hui en titre à Verdun une citoyenne nommée au comité consultatif sur l'accessibilité universelle. Petites et moyennes entreprises, un problème criant de recrutement au Québec. Également aujourd'hui des sculpteurs malvoyants à Saguenay qui font des sculptures sur la neige. Des milliers de dollars en dons ont été versés aux organismes de Drummondville. Également, des pompiers monteront 1125 marches en tenue pour le petit Liam. Et puis également, nous aurons deux entrevues aujourd'hui, d'une part avec Camille Chet, qui est une animatrice sur Ami Télé, qui va nous présenter une nouvelle émission. Et aussi le regroupement québécois des maladies orphelines, c'est Gail Ouellet, la directrice générale, qui va nous parler d'un premier salon des maladies orphelines. Alors, militante de longue date pour les droits des personnes à mobilité réduite, Monique Trudel siégera au comité consultatif sur l'accessibilité universelle de l'arrondissement de Verdun en tant que membre citoyen. La Verdunoise est reconnue pour son engagement communautaire et sa volonté de faire de l'arrondissement un territoire accessible à tous. Nommée Grande Verdunoise en 2012, elle a notamment œuvré à ce que la rue Wellington soit accessible aux personnes en fauteuil roulant. Madame Trudel est atteinte de sclérose en plaques et doit se déplacer en fauteuil depuis les 10 dernières années. Elle a notamment créé un programme d'économie sociale, Bouger pour vivre, afin que tous puissent pratiquer régulièrement de l'exercice. L'accessibilité universelle fait partie du plan de développement stratégique 2015-2025 de l'arrondissement. Cette nomination est la première action concrète de Verdun afin d'atteindre ses objectifs. Quant au nouveau parc et au parc récemment rénové, ils comprennent tous des éléments accessibles, peut-on lire dans un communiqué de l'arrondissement. C'est notamment le cas des parcs Ménard-Ferguson, Willy Broad et Roger Séguin. La ville de Montréal a adopté sa politique municipale d'accessibilité universelle en juin 2011. Sondage léger réalisé pour le Conseil du patronat. Il y a un problème criant de recrutement. C'est d'après un article de Marie-Laurence Delaney de TVA Nouvelles, alors que le précédent était d'après un article de Stéphanie Alcaraz de TC Média. Les entreprises du Québec ont un besoin criant de main-d'œuvre selon un sondage léger réalisé pour le Conseil du patronat du Québec, obtenu en primeur par TVA Nouvelles. Pas moins de 7 entreprises sur 10 ont des problèmes de recrutement, que ce soit en raison de besoins technologiques trop rapides ou difficiles à suivre, du niveau de compétences générales de base insuffisant ou de postes à qualification difficiles à combler. Les petites, moyennes et grandes entreprises partagent des défis et des préoccupations qui doivent être rapidement répondues pour notre prospérité actuelle et future. Selon le président, directeur général du Conseil du patronat, Yves Thomas Dorval. D'un autre côté, les entreprises ne profitent pas pleinement de certains bassins de travailleurs selon les données de l'étude. Seulement le quart, 24% des entreprises sondées ont à leur emploi des immigrants ou des nouveaux arrivants ou des personnes issues de minorités visibles, 22%. Une entreprise sur 10, soit 10%, emploie des personnes souffrant d'un handicap et une même proportion des personnes en réinsertion sociale finalement. Seulement 4% des employeurs disent avoir des employés issus des communautés autochtones. Ce sondage a été réalisé du 7 au 30 septembre 2016 auprès d'un échantillon représentatif de 300 employeurs œuvrant dans des entreprises privées et comptant 10 employés ou plus. La marge d'erreur maximale pour un échantillon de 300 répondants est de plus ou moins 5,7% et ce, 19 fois sur 20. Par actualité régionale, des sculpteurs malvoyants à Saguenay, donc des sculpteurs en neige, oui, vous avez bien entendu. Seriez-vous capable de sculpter un ours ou un lion en neige sans avoir votre vue complète? Eh bien, c'est ce que parviennent à faire des artistes amateurs vivant avec un handicap visuel. Depuis 5 ans, les visiteurs de Saguenay en neige peuvent observer des œuvres sculptées par des malvoyants. Les participants montrent ainsi à la population qu'il est possible de sculpter malgré un handicap. Ensemble, ils ont créé 6 œuvres à partir d'un bloc de neige. Moi, je dois enlever la neige de la sculpture et je suis tout à fait autonome pour le faire, de dire Kathleen, une participante. Sylvie Gagné, elle, en est à sa 2e année de sculpture sur neige et c'est ce que nous indique une photo. L'Association des personnes handicapées visuelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 350 membres. Elle fête ses 75 ans cette année, ce qui fait de ce regroupement un des plus vieux de la région. L'activité de sculpture sur neige vise notamment à briser l'isolement. Je suis tombée handicapée visuelle en 1996. J'ai eu le support et l'appui de personnes de mon entourage qui vivaient la même affaire et ça me démontrait comment je peux accepter mon handicap, a confié Michel Brassard, le président de l'association. Pour poursuivre la sensibilisation à la réalité des malvoyants, un souper dans le noir pourrait être organisé au mois de septembre. Au total, il y aurait 1,5 million de personnes vivant avec un handicap visuel au Québec. Tout cela d'après les informations de Daniel Lapierre. Alors, si tout va bien, je devrais maintenant pouvoir m'entretenir avec une animatrice de la chaîne de télévision Ami Télé. Je parle avec Camille Chay. Camille?
Oui, bonjour.
Bonjour Camille. Camille, on se parle aujourd'hui parce que vous êtes à la tête, à la barre d'une toute nouvelle émission à Ami Télé qui s'appelle Pareil, pas pareil.
Oui, tout à fait.
Alors, à quoi ça fait référence, ce titre? Je m'en doute bien, remarquez, tout le monde s'en doute bien, mais vous allez nous en dire un petit peu plus.
Oui, ben en fait, c'est très simple parce que dans cette émission, on présente des portraits de personnes, toutes vivant avec un handicap différent. Mm-hmm. Et ben, le but de cette émission, c'est de, oui, d'une certaine façon, mettre en lumière leur façon de vivre, mais en même temps, on est pareil, mais on n'est pas pareil. C'est-à-dire, on est comme tout le monde, on a notre différence, mm-hmm. mais c'est pas ce qui va nous exclure des autres et de la société.
Et quand vous dites « nous », c'est parce que vous-même, vous vivez avec un handicap. Voudriez-vous nous en parler, Camille? Vu que nous, en plus, on est à la radio, c'est pour que les gens puissent se faire une idée avant de vous voir.
Bien sûr, oui. En fait, moi, je suis née sans mon bras et ma jambe gauche.
D'accord.
Donc, c'est une malformation congénitale. On ne connaît pas la cause, mais voilà, c'est ce qui fait que je vis avec un handicap. Et ça ne m'empêche pas de fonctionner... tous les jours.
Ben oui, absolument. Camille, est-ce que l'émission est déjà en onde ou elle va l'être?
Oui, l'émission est déjà en onde, donc sur les ondes d'Ami Télé.
Oui, on pourrait peut-être rappeler comment on peut regarder Ami Télé, sur quel réseau, sur quelle chaîne?
Oui, c'est ça. En fait, si c'est avec Bell, donc c'est le poste 50. Mm-hmm. Si c'est avec Vidéotron, c'est le poste 172.
D'accord.
Donc ça, c'est pour la télévision. Et après, sur le site de Ami Télé, Ami Télé. .ca. Il y a aussi les émissions qui vont être diffusées au fur et à mesure. Donc, ça a été diffusé la première le 2 février, mm-hmm. Le jeudi.
D'accord.
À 9h le soir et c'est en rediffusion le samedi à 11h le matin.
Alors, parlez-nous un peu de quelques cas dont il est question et que vous nous présentez à cette émission-là.
Oui, ben on voit plusieurs personnes qui ont un handicap visuel, bien sûr, ça c'est quand même fréquent, je dirais. Mm-hmm. Il y a aussi un trisomique.
Okay.
Il y a un homme, par exemple, qui est aussi aveugle, lui qui fait le braille et qui est aussi animateur radio.
Ah d'accord.
Donc, oui, voilà, donc il y a vraiment un peu de tout. Il y a qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y en a tellement que oui, voilà. Certains aussi qui ont... Mais je dirais que ça tourne beaucoup autour du handicap visuel. Mm-hmm. Certains vont avoir un handicap aussi physique, mais c'est à peu près ce qu'on voit dans les reportages, oui.
OK. Un animateur non-voyant, mon Dieu, vous piquez ma curiosité.
Oui,
il s'appelle
vraiment...
comment, ce monsieur?
J'ai pas son nom.
Ah,
par
d'accord.
Cœur.
OK.
Je pourrais le retrouver, mais c'est un Haïtien.
OK.
Ça fait longtemps qu'il a sa propre émission en créole.
Ah oui.
Donc oui, c'est génial, c'est une très très belle entrevue.
Ah ben ça doit être ok sur
C'est à
ouais.
voir,
Ça
c'est à
doit être
voir.
voyant sur la radio là qui est sur
Ah
Saint-Laurent hein, j'imagine. Oui, c'est
oui.
super. Bon. Et alors l'émission en ce moment, on peut la voir est-ce que c'est sous forme de documentaire, de reportage d'abord? Je veux dire, est-ce que vous allez sur place? Est-ce que vous allez dans le milieu de vie de la personne ou est-ce que c'est un témoignage en studio?
Oui, ben en fait, l'équipe de production est allée rencontrer chaque personne dans leur milieu de vie.
D'accord.
Moi étant l'animatrice, j'ai plutôt fait le tournage en studio pour présenter, faire les liens entre tout le monde. Mais c'est ça, c'est l'équipe qui a rencontré toutes ces belles personnes.
D'accord. Dites-moi, pour faire un petit peu plus connaissance avec vous, Camille Chet, est-ce
Oui.
que vous faites vos débuts à la télévision?
J'ai déjà eu quelques expériences à la télévision. J'ai déjà auparavant animé une autre émission qui s'appelait Paranatation 2013, donc qui touchait le sport, la natation, mais pour les personnes
D'accord.
handicapées. Ça fait à peu près 4 ans de ça. Donc j'étais co-animatrice avec Jean-Marie Lapointe.
Oui.
Donc ça, c'était ma première grosse apparition. Après, j'ai fait plusieurs petites entrevues depuis que je suis jeune, toujours concernant ben, les prothèses, le handicap, la
Oui.
différence. Et voilà, j'ai
Vous
donné
êtes
aussi
donc très,
quelques
très
conférences.
impliqué, hein? Donc
Oui.
en accessibilité universelle, en inclusion, en tout ça.
Oui, c'est très important pour moi parce que je fais partie de l'association des amputés de guerre. Donc, c'est un rôle
Oui,
d'ambassadrice qui me tient à cœur.
bien sûr. Et vous-même, vous êtes quelqu'un d'actif?
Oui, tout à
Oui,
fait.
en plus, oui.
Oui, je suis très active parce que je fais de l'escrime en fauteuil roulant
Ah
avec
oui.
Team Canada.
Oui.
Donc ça c'est oui, on peut dire que c'est très très actif
Oh,
et j'aime beaucoup
Seigneur,
le sport.
oui, j'ai vu les photos, c'est très impressionnant. Plus que des photos, vidéos, tout ça,
Oui,
et c'est vraiment impressionnant. C'est pas de tout repos, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas parce que c'est en fauteuil que c'est de tout repos, quoi.
oh non, non, non,
Oh
il faut
non,
pas se fier aux
dit-elle.
apparences.
Camille, est-ce que vous savez la prochaine émission, donc, elle sera diffusée quand et ce sera au sujet de qui?
La prochaine émission va être diffusée jeudi prochain. Donc,
D'accord.
même chose, ça va être le jeudi à 21h et en rediffusion le samedi à 11h. Je connais pas le contenu par cœur dans
Ah,
l'ordre de
d'accord.
toutes les émissions, mais je sais qu'on va rencontrer un jeune autiste qui fait
D'accord.
des dessins.
OK. Ben
Oui.
écoutez, Camille, je serais très heureuse à un moment donné que vous soyez vous aussi une invitée sur Canal M. Peu importe l'émission, vous serez toujours la bienvenue. Et puis,
C'est
ben,
très gentil.
parlez de nous, comme on parle
Tout
de
à
vous,
fait.
ça va nous faire plaisir.
Tout à fait. Je vais
OK.
parler de vous avec plaisir. C'est très gentil.
Merci, Camille. Passez une très belle
Merci à
journée
vous.
et bonne chance pour cette émission.
Merci
Salut, bye
beaucoup.
bye.
Au revoir.
Par actualité régionale, la suite, j'ai trouvé ça dans l'Express au cours, donc dans l'Express de Drummondville, pas l'Express, la revue française. Au cours des dernières semaines, plusieurs organismes de la région ont pu bénéficier de dons qui ont été remis par l'entremise de différentes campagnes de financement ou d'actions bénévoles des gens de Drummondville. Le Centre de ressources pour hommes a reçu, via le programme de dons et commandites de la Caisse des Jardins de Drummondville, un montant de 2 300 $. La commandite permettra au centre de faire l'achat d'équipements informatiques et d'une caméra vidéo afin de maximiser leur impact sur les réseaux sociaux. L'école Laurée des Bois a reçu un montant de 5 330 $ des mains de deux cyclistes chevronnés de l'équipe Banque Canada qui ont participé au grand défi Pierre Lavoie. Ce don permettra à l'école d'acheter de nouveaux équipements sportifs. Le Festival de la Poutine a remis près de 20 000 $ à 5 organismes de la région. Ainsi, la Fondation René Verrier, Centraide Centre du Québec, la Maison Marie-Rivière, ou Rivier, le Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste et la Fondation Sainte-Croix-Hériault ont tous mis la main sur un chèque de 3 877 $. Le montant remis à ces organismes provient des pourboires recueillis au bar lors du Festival de la Poutine L'été dernier, la fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la FFMSQ, a annoncé l'octroi d'un soutien financier maximal de 4 500 $ à Parrainage Civique Drummond dans le cadre de son volet infrastructure. Plus précisément, l'appui financier permettra la réalisation de travaux d'urgence dans la maison de répit de l'organisme de la rue Saint-Damase, notamment dans l'entrée destinée aux gens à mobilité réduite. Et puis, il y a les cuisines collectives du Carrefour d'entraide de Drummond qui ont reçu également de l'argent. Cette année aussi, les unités cascades de Kings and Falls, Victoriaville et Drummondville ont mené une campagne de générosité incomparable pour Centraide, centre du Québec. Et c'est un montant de 25 000 $ qu'ont remis Cascade et ses employés à l'organisme, soit 165 000 de plus que l'an dernier. Bravo tout le monde. Les maladies orphelines, il faut en parler de ces maladies qui ne touchent qu'une poignée de personnes parfois. Alors du coup, elles sont certainement un petit peu négligées. Heureusement, nous avons le regroupement québécois des maladies orphelines et sa directrice générale qui est Gayle Ouellette. Bonjour Madame Ouellette.
Bonjour.
Alors j'espère, oui, vous êtes d'accord avec moi, on n'en parle pas assez de ces maladies orphelines. Elles sont les négligées un petit peu, non?
Oui, tout à fait. On trouve qu'on n'en parle pas assez.
Oui.
Je pense que c'est la dernière catégorie de maladies là, pour laquelle il n'y a pas quelque chose d'organisé, politique, plan national.
Oui.
On en parle moins encore que d'autres maladies.
Et que dire des gens qui vivent avec ces maladies-là? Parce que là, on parle d'une maladie, mais derrière chaque maladie, il y a des visages, il y a des cœurs qui battent et voilà, et qui souffrent terriblement, quoi.
Oui, la souffrance physique, hein,
oui,
quelquefois,
hein.
Ou les
oui.
incapacités, mais aussi, tous le disent, c'est quand on a une maladie rare avec un nom bizarre et puis qu'on est, comme vous avez dit dans votre présentation, une poignée de personnes, on est très isolé. Alors ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors c'est ce qu'on veut. Là, l'objectif de regroupement, c'était d'ailleurs de regrouper ces personnes.
Voilà.
Mais il faut encore en toucher plus et briser cet isolement. Ouais.
D'où peut-être l'idée de ce premier salon?
Oui, tout à fait. En fait, c'est le premier salon public. On a fait un petit salon l'an passé, mais dans un institut de recherche, à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Alors, c'était plus pour sensibiliser les chercheurs, les médecins qui étaient là et des gens qui sont venus de l'extérieur. Mais cette fois-ci, on veut toucher le grand public.
Oui.
Encore beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi une maladie orpheline, c'est quoi la différence entre une maladie rare, où est-ce qu'on trouve l'information. Alors c'est pour ça, on veut sensibiliser aussi.
Je vous interromps tout de suite parce que vous venez de dire quelque chose d'important qui mérite peut-être une explication. Quelle est la différence entre une maladie orpheline et une maladie rare?
Oui, c'est ça, c'est toujours une question qui est demandée. Ben, en fait, les maladies rares, de par leur rareté, sont orphelines, mais en fait, la définition de ces maladies-là, dans leur ensemble, c'est chaque maladie, c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000 dans la population. C'est la définition
c'est la définition
internationale. Oui. Mais comme elles sont rares, beaucoup de ces maladies-là, il y a peu de recherches, il y a peu de traitements. Il y a seulement à peu près 400 médicaments pour 7000 maladies rares. Alors, souvent aussi, sont orphelines de même la prise en charge.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça qu'on les appelle souvent maladies orphelines.
Bon. Alors, ce salon aura lieu le 21 février, c'est bien ça?
Oui.
Hein, Madame Ouellette, ça va se passer à la grande place donc intérieure hein, du complexe des jardins à Montréal.
Oui.
À partir de 10h du matin. Quel type de participants, qui avez-vous invité? Parce qu'il va y avoir entre autres des conférences hein, qui vont être données. Qui entre autres?
Oui, on a nos conférenciers invités, là, Monsieur Pierre Lavoie qui est un porte-parole
hein,
des maladies orphelines assez connues. Et puis, Monsieur Martin Deschamps, qui va être là aussi pour faire une conférence, une prestation musicale. On est très contents de les avoir. Mais pour sensibiliser le public et pour que le public en sache davantage, ben on aura 20 associations de maladies rares.
Okay.
Et souvent des maladies dont vous n'auriez probablement jamais entendu parler le nom. Et nous, évidemment, le RQMO, qui seront là pour justement expliquer c'est quoi la réalité de cette maladie-là. Il y aura même des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes avec des maladies rares qui n'ont pas d'association.
Mm-hmm.
Et il y aura même un espace rencontre où ces personnes, des personnes comme ça, avec des maladies qui n'ont pas d'association, vont pouvoir échanger avec le public.
Bon. Oui. Et ce qu'il faudrait, c'est que la communauté scientifique aussi peut-être se montre intéressée par tout cela.
Oui, je ne vais pas oublier qu'il y aura aussi deux kiosques, en fait, la Chaire des maladies génétiques rares de l'UQAM et puis de l'Institut génétique des Instituts de recherche Santé Canada. Et parce que le thème de la Journée internationale des maladies rares cette année, qui est le 28, en fait, la dernière journée du mois, est la recherche cette année. Donc, les gens vont pouvoir aussi parler à des chercheurs, qu'est-ce qui se passe dans le domaine des maladies rares, etc.
Est-ce que les gens qui vivent avec une maladie rare, j'imagine que pour la plupart, ils sont obligés de sortir du pays pour se faire soigner? Parce que vous parliez de, je ne sais plus, une poignée de médicaments pour soigner, qui en plus doivent être relativement inaccessibles au niveau du coût, qui ne sont pas pris en charge, qui ne sont pas...
Oui, tout à fait. En fait, il y en a qui réussissent à se faire inscrire, par exemple, dans un essai clinique pour un nouveau médicament, puis ils vont ailleurs, on en connaît. Il y en a qui partent ailleurs dans des cliniques spécialisées.
Bon.
Mais c'est vraiment pas la majorité.
Non, c'est
parce
ça.
Que tout ça coûte cher. Mais puis en plus, les fameux 400 médicaments, la moitié de ces médicaments ne sont même pas disponibles au Canada parce qu'on n'est pas un grand marché.
Mais non, c'est ça.
Et ensuite, il y a la question, comme vous l'avez dit, là, du remboursement par les régimes d'assurance publique et privée, parce qu'ils sont souvent chers.
Exactement.
Sauf que c'est peu, même si c'est cher, c'est peu de personnes. Donc, comparé à tous les autres charges de médicaments dans le budget, là, c'est une goutte d'eau. Là.
Oui, j'entends bien. C'est pour ça que bon, ce salon qui sera pour l'instant, on s'entend peut-être relativement modeste de par le nombre de conférenciers et tout ça, mais c'est le premier du nom, mérite vraiment d'exister et on va espérer que le plus grand nombre de personnes viennent s'informer dans le cadre de ce salon, donc le salon des maladies orphelines. Je rappelle que c'est le 21 février, ça commence à 10h du matin sur la grande place du complexe Desjardins. Si les gens veulent avoir un peu plus de détails sur la programmation, ils vont sur votre site, Madame
Ouellette,
donc le RQMO.
Oui, .org.
Donc, RQMO pour Regroupement québécois des maladies orphelines.org. Merci beaucoup, Madame Ouellette, et bonne chance pour ce salon.
Merci à vous.
Allez, au revoir, bonne journée.
Au revoir.
Par actualité nationale, j'ai trouvé cela dans le site de ici Radio-Canada Saskatchewan, les autobus de Regina seront bientôt équipés de panneaux pour malentendants. Ce sera d'ici la fin 2017, c'est d'après un texte de Jérôme Bergeron. La ville veut ainsi emboîter le pas à de nombreuses sociétés de transport en commun au Canada pour rendre ses services plus accessibles, notamment aux personnes malentendantes et sourdes. Le directeur général de l'Association des sourds et malentendants de la Saskatchewan, la SMS, Nairn Gillis, salue la décision de Regina Transit, qu'il attendait depuis de nombreuses années. C'est fantastique, c'est l'occasion pour le gouvernement et la ville de Regina de démontrer des valeurs d'inclusion. Depuis l'année dernière, une voix féminine annonce le prochain arrêt dans tous les autobus. Une mesure bien efficace pour les malvoyants, mais un peu moins pour les malentendants. Le coût estimé de ce nouveau projet, 250 000 $. Des rampes d'accès, des planchers d'autobus surbaissés et dispositifs sonores. Si Regina Transit a déjà investi des milliers de dollars pour rendre ses autobus plus accessibles au cours de la dernière décennie, rien n'avait encore été fait pour les sourds et les malentendants. D'ici la fin de l'année, l'organisme public compte apporter d'autres changements à ses autobus pour les rendre encore plus accessibles. À chaque arrêt où il y a plus d'un circuit, des messages automatisés seront livrés par un haut-parleur installé à l'extérieur de l'autobus. Le message indiquera le numéro de la ligne qui vient de s'arrêter afin d'aider les malvoyants à devenir plus autonomes. Cette technologie est actuellement testée à Toronto. La ville reine a équipé la majorité de ses autobus dès l'année dernière. Par actualité internationale, ils sont comme les autres et comme les autres, c'est écrit en italique et c'est d'après un papier trouvé sur le site de la radio-télévision belge. C'est donc comme les autres, c'est le titre d'une série 100% belge dont le pilote, c'est-à-dire le premier épisode test, sera tourné dans les prochains jours. Après l'univers noir et envoûtant d'une série qu'on ne connaît pas nous ici, ça s'appelle La Trêve et Ennemi Public, eh bien c'est à découvrir dans les mois qui suivent pour les Belges et peut-être même que nous bénéficierons de cette nouvelle série. D'après les informations, c'est un casting majoritairement constitué d'acteurs handicapés et trisomiques qui va tourner le pilote de Comme les autres, une série 100% belge dont l'idée n'est pas totalement neuve. Il s'agira d'une adaptation de Tight Gat Chocolat créée sur la VRT. La VRT, je pense que c'est un canal belge, mais du côté hollandais, donc c'est pas du côté francophone. Voilà ce que je voulais dire et que j'ai très mal dit. L'histoire de Comme les autres n'est justement pas comme les autres. Elle prend place dans une entreprise artisanale de chocolat à la frontière française et ça sent bon la Belgique, nous dit-on, et l'authenticité. On peut s'attendre, en bon belge, à un roller coaster d'émotions. Alors, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. On m'a dit que c'était une montagne russe. Très bien. Donc, ça existe bien en vocabulaire belge, mais ça n'est pas utilisé là, qui devrait être traité avec une belgitude assumée et rafraîchissante. C'est tout du moins ce qu'on peut attendre de Stromboli Pictures, à qui l'on doit déjà le décalé Melting Pot Café qui est derrière ce nouveau projet de série. Voilà, tout cela après plus de 20 ans, après le 8e jour, qui avait mis en lumière le talent de Pascal Duquesne, on s'en souvient, qui devrait, selon nos informations, être au casting de cette fiction-là, série 100% belge. Sourire sans fin invite les parents d'enfants âgés entre 0 et 12 ans ayant un TSA, un TDAH ou un trouble anxieux, diagnostiqué ou non, à des rencontres qui leur permettront de partager avec d'autres parents et où ils pourront transmettre leurs trouvailles. Ces rencontres gratuites ont lieu en soirée 7 fois par année dans les locaux de l'organisme. Pour information ou inscription, Valérie Brousseau-Dubé, qui est la responsable du projet. C'est facile de l'appeler sans frais. C'est un numéro qu'on retient facilement dans le 514-877-5000. Dans le 514-877-5000. Voilà ce qui complète les paractualités du 13 février 2017. C'était Clotilde Sey qui remercie son équipe et qui vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous demain à 11h30. Salut.